Bonjour, je m'appelle Méline, j'ai 3 petites filles, 3 ans et 10 ans. Et voilà, mon approche avec les enfants est plutôt de rester à hauteur d'enfant, de me mettre accroupie le matin pour les habiller, les déshabiller parce que ça gêne, les réhabiller, les redéshabiller parce que finalement je voulais le petit Bambi sur le t-shirt, changer les chaussettes 3 fois, aller chercher les élastiques dans la chambre de la grande parce qu'elle a pas mis sa culotte et qu'il faut rechercher le chouchou vert plutôt que l'élastique rose. Donc on gagne pas forcément du temps tous les matins avec moi, mais voilà, c'est dans la bonne humeur et la patience pour moi. Par contre, mon conjoint, ça se passe pas comme ça. Donc le vendredi où c'est lui qui s'occupe des enfants, eh bien sa gueule, c'est papa qui décide, on y va, on se dépêche et forcément des colères, ça résiste parce qu'avec maman, on n'a pas l'habitude que ça fonctionne comme ça. Donc moi, quand c'est comme ça, je m'en vais, j'ai du mal à supporter les clashs frontaux, chacun sa méthode. Et bon, je me demande si on pourrait pas travailler de concert et faire un pas l'un vers l'autre sur des méthodes un peu plus harmonieuses entre parents.
On n'est pas d'accord sur l'éducation. Qui n'a pas eu cette conversation avec ses copains, ses copines un jour, un soir de désespoir ? Généralement, on tente de se faire consoler par les potes qui sont de toute façon dans la même galère que nous et n'ont pas de solution non plus. Je veux pas saper le moral de celles et ceux qui nous écoutent et n'ont pas encore d'enfants ou qui n'ont pas encore eu leur première dispute sur ce sujet, mais en fait, c'est LE sujet. Quand on est amoureux, qu'on projette de faire un bébé, on ne se pose pas en amont pour se dire « Bon, alors moi, mes principes éducatifs, c'est ça, ça et ça. Et toi ?» Ouais, c'est sûr, ça casse un peu la magie et pourtant, je pense qu'il faudrait le faire. Parce que c'est pas quand on se retrouve à table, oui, c'est toujours à table que ça part en vrille, allez savoir pourquoi, donc c'est pas à ce moment où l'un prône la DME, la diversification menée par l'enfant, qui patouille dans ses aliments, et que l'autre essaie de lui apprendre le maintien, l'écoute pas sur la table, qu'il faut commencer à se poser la question. Forcément, il y a un parent qui va passer pour le gentil et l'autre le méchant. Et notre enfant là-dedans, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'il arrive à faire la part des choses, à prendre un peu des deux, ou alors c'est le gros bordel? Comment gérer nos différences éducatives sans que ça tourne au pugilat tout en élevant sereinement nos enfants? Voilà le défi de ce nouveau podcast pour lequel on va se faire aider, bien sûr. Nous recevons pour cela Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple, mais également autrice de livres comme « La boîte à outils pour être un couple épanoui ». Bah top, c'est tout ce qu'il nous faut. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Camille Rochet.
Bonjour Dorothée.
Alors l'éducation, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce que l'éducation des enfants déjà, ça a toujours été source de conflits ?
Toujours. Et on dit que l'arrivée du premier enfant est la première crise qui arrive dans le couple. Alors attention parce que quand je dis crise, c'est un mouvement qui s'opère dans la relation et cette évolution peut être plus ou moins positive. Mais elle crée forcément un mouvement et malheureusement souvent, c'est le point de départ d'une prise de conscience aussi des vraies différences que l'on a entre nous.
Est-ce que malgré tout, quand on voit dans l'histoire et l'évolution de la place des pères, ce conflit a toujours existé. Est-ce qu'il est le même aujourd'hui? Il est plus présent parce que les pères sont plus présents ou moins? Comment est-ce que vous le voyez?
Je pense que le conflit a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'avant, on avait en effet des femmes qui géraient beaucoup l'intérieur de la maison et des hommes l'extérieur. Simplement, le fait que les femmes gèrent l'intérieur de la maison, ça pouvait générer beaucoup de reproches, beaucoup de critiques sur la façon dont fait ou ne fait pas le père, ce qui a généré l'évolution aujourd'hui et l'implication des hommes au foyer. Simplement, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des relations dites symétriques, c'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes qui devraient tout faire pareil de la même façon, ce qui génère d'autres conflits, en fait. On a évacué certains conflits de « moi, je fais tout ça, toi, tu fais tout ça, et toi, tu touches pas à ça, moi, je touche pas à ça ». Simplement, aujourd'hui, on est « mais parce que je fais ça, tu devrais le faire ». Et en fait, ça génère de nouveaux conflits et en particulier dans l'éducation, ça génère beaucoup d'étincelles parce que je le fais de cette façon-là, il faut que tu le fasses aussi, mais oui. Derrière, il faut que tu le fasses de la façon dont je le fais. Et c'est là où c'est quand on est deux sur une tâche, on a beaucoup plus d'exigences sur la façon dont on va faire l'autre.
C'est intéressant de savoir que finalement, ça a toujours existé, mais que ça se déplace. Ce n'est plus exactement sous le même regard que les conflits se joue aujourd'hui.
Exactement, ça se déplace et je pense qu'en fait, là où avant, il y avait vraiment chacun était très clair dans son rôle auprès de l'enfant. Donc, je sais pas, typiquement, la femme, c'était l'éducation à table, tout ça. Bon, ça, je m'en occupe et en fait, j'attends même pas que tu t'en occupes parce que tu n'es pas là. Globalement, c'était ça, hein, au niveau cliché, on va dire. Et là, aujourd'hui, c'est mais je m'en occupe et je comprends pas pourquoi tu le fais pas aussi.
Ouais.
Donc, tout devient un peu une comparaison et on a beaucoup de conflits de pouvoir hein, qui s'installent aussi à travers ça. Donc, en effet, on a déplacé le problème. Il n'est pas vécu de la même façon.
Est-ce que nos différences éducatives viennent forcément de ce qu'on a reçu par nos propres parents et que de ne pas le reproduire nous entraînerait finalement dans une sorte de conflit de loyauté envers eux?
Ah, complètement. En fait, il faut... Enfin, pendant très longtemps, je me suis dit, je ne vais pas être la psy qui tout de suite reparle des parents. Et en fait, je me suis vite retrouvée à me dire, non, en fait, dès la deuxième consultation, on va commencer à parler des parents parce qu'on perd un temps monstrueux si on ne le fait pas. Et concrètement, avec l'éducation, évidemment, on est soit dans ça m'a aidée, c'était bien et j'ai envie de le refaire, consciemment ou inconsciemment. Mm-hmm. Soit justement, je fais tout et je m'exerce à ne pas reproduire ça. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de conflits dans le couple à cause de ça, parce qu'en fait, l'autre venant d'une éducation différente, forcément, quand bien même il peut y avoir des bases communes, on va parfois reprocher à l'autre de générer ce qu'on ne voulait surtout pas nous vivre avec nos enfants. Donc ça peut être compliqué. Ou demander à l'autre de nous accompagner dans un schéma dont le conjoint ne voit même pas l'intérêt, en fait. Ou qui va nous dire, je sais pas, je pense par exemple, mais tu mets pas assez de limites, t'es trop dans l'écoute de l'enfant, dans l'émotion, tout ça. Ça, si moi, je suis venue de parents qui n'ont jamais écouté mes émotions, je vais être très vigilante par rapport à ça. Et en même temps, si mon conjoint, lui, a eu des parents qui écoutaient ses émotions et qui en même temps mettaient un cadre et qui voient pas le problème à vivre les deux en même temps, ça peut générer des conflits qui sont parfois incompréhensibles, en fait, pour le couple.
Parce qu'inconscient parfois aussi.
Oui, complètement. Ah souvent c'est inconscient. Hein.
Si on schématise, on passe quand même d'une éducation, vous parliez du mot cadré, peut-être autoritaire, même si on peut dire autoritaire qu'on a reçu nous, au phénomène aujourd'hui d'éducation positive, bienveillante.
Ouais.
Est-ce qu'on serait dans une espèce d'entre-deux éducatif avant de trouver le juste équilibre? Parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de parents qui en reviennent aussi aujourd'hui de l'éducation positive.
Oui, très concrètement, moi, étant thérapeute de couple, j'observe pas mal de couples qui sont en burn-out paternel, maternel, parce qu'il y a une espèce d'exigence à la maîtrise. En fait, on permet à nos enfants, on est énormément à l'écoute de l'émotion de nos enfants, mais résultat, on ne peut plus être à l'écoute de nos propres émotions. On considère que parce qu'on est adulte, c'est nous l'adulte, c'est à nous de mettre nos émotions de côté.
Ouais.
Ce qui peut pas marcher, en fait, au quotidien, ça marche de temps en temps et c'est très bien, mais il y a plein de moments où de dire à l'enfant, écoute, là, j'ai besoin d'une heure, tu vas dans ta chambre, tu joues, tu fais ce que tu veux, mais pendant une heure, tu ne me déranges pas et si tu reviens, je te dirais de retourner dans ta chambre, voilà. En fait, c'est pas... Et de temps en temps, on va un peu s'énerver parce que il faut que vraiment, on ait cette heure de repos pour pouvoir ensuite être disponible pour l'enfant. Ça, il y a beaucoup de parents, par exemple, c'est un exemple, mais qui ne se l'autorisent pas et qui, du coup, finissent sur les rotules. Et ce qui se passe, c'est qu'après, le conflit va être dans le couple. Parce que je vais reprocher à l'autre de ne pas s'être levé, alors que parce que du coup, c'est toujours à moi de le faire. Enfin, voilà. Il y a une espèce, en fait, il y a des injonctions et des dictats qui se sont mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, on tend vers un équilibre, en effet, entre poser de vraies limites aux enfants en les sécurisant sans être violents, bien évidemment, mais en les sécurisant et en même temps à l'écoute de leurs émotions, mais en y intégrant que nous aussi, on doit être à l'écoute de nos émotions et qu'on n'est pas des surhommes et des surfemmes.
Ben oui.
Il y a un moment donné, on ne peut plus, on a besoin de repos, on a besoin de repos. Et il faut que l'enfant, c'est aussi une éducation à l'adaptation de la vie sociale de l'enfant.
Avec son conjoint, sa conjointe, est-ce que vous pensez qu'on doit toujours être d'accord justement sur l'éducation ou tout du moins, est-ce qu'on doit se parler en amont pour trouver un langage commun à avoir avec ses enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, on ne sera jamais d'accord sur tout. Ça, c'est vraiment une utopie et ça va être d'ailleurs l'enjeu en couple de cette éducation. Ça va être de comprendre pourquoi cette façon de faire est importante pour mon conjoint, de pouvoir expliquer pourquoi pour moi ça peut m'insécuriser, me mettre en danger, m'énerver, voilà. Et je pense que, en fait, alors il y a deux choses, c'est que dans l'idéal, bien sûr que si on a pu en parler en amont, je sais pas, il y a plein de questions typiquement, donner ou pas de l'argent de poche à nos enfants.
Oui, par exemple, oui.
Ça, on a tout le loisir d'en parler en amont parce que c'est des conversations qui arrivent comme ça, un dîner avec des amis, il y en a qui parlent de leurs enfants, tiens, et nous, qu'est-ce qu'on ferait ? Voilà, c'est facile. Mais il y a tellement de sujets qui vont arriver de façon complètement impromptue qu'on n'aura absolument pas pu anticiper. Voilà, bah et ouais. À ce moment-là, je pense qu'il faut, se dire que les enfants se nourrissent de nos différences. Le tout, c'est de discerner le moment où là, en fait, je suis face à une différence avec mon conjoint, savoir s'arrêter dans le débat avec nos enfants et dire, attends, on va en parler avec papa, avec maman, et je te redonnerai plus tard une réponse. Et ça, en fait, avec le temps, l'enfant comprend. Il y a plein de fois, je sais pas, ma fille rentre de l'école, me demande, maman, est-ce que je peux aller dormir chez un tel ? Je vais dire, attends, j'en parle d'abord à papa, on en discute et je te donne la réponse après. Et en fait, ça, c'est tous ces moments. Ouais. Alors, il y a des moments qu'on ne pourra pas anticiper et il y aura un loupé une fois.
Ben non, parce que si votre enfant vous pose la question, mais que vous êtes avec votre conjoint, ouais. On imagine, je vais dormir chez une telle ou chez un tel. Vous êtes ensemble, mais bah, moi, je suis d'accord, l'autre n'est pas ouais. d'accord. Est-ce qu'on se dit, bon, bah, deux secondes, on va dans notre bureau, c'est-à-dire la chambre, on va en discuter avant. Ou est-ce que, en fait, ma ouais. question est-ce qu'on doit toujours se consulter avant pour avoir un langage commun, ou est-ce qu'on peut s'exprimer ? Parce que j'ai peur, en fait, de qu'on perde le naturel. Oui. Vous voyez, dans la discussion avec l'enfant, j'ai l'impression que tout ferait un peu faux.
Alors, c'est-à-dire, par exemple, je vous parle de ce truc-là de dormir avec l'enfant, parce que peut-être qu'une fois j'ai dit ok et en fait mon conjoint était là ou pas là, mais en tout cas n'a pas eu la réaction, en fait n'était pas du tout ok. Donc j'ai dit une fois ok, et en fait ça a généré un conflit entre nous parce que lui n'a pas compris pourquoi j'ai dit oui et tout ça. Donc je sais la prochaine fois qu'il vaut mieux qu'on en parle tous les deux avant que je dise oui, parce que je ne suis pas convaincue, c'est un terrain sur lequel je ne suis pas sûre qu'on soit absolument d'accord. Donc, je pense qu'il y a un côté naturel où on prendra des décisions, on dira quelque chose à l'enfant, c'est après coup qu'on verra la réaction du conjoint, et donc, la prochaine fois où la situation se représentera, on en rediscutera. Là, franchement, il y a plein de situations qu'on ne pourra pas anticiper, voire on ne comprend même pas pourquoi notre conjoint réagit comme ça. Et ça vaudra le coup d'en parler, et je pense qu'il y a certaines situations où, en effet, on ne pourra pas répondre naturellement parce que naturellement on aurait dit cette réponse, mais comme on sait que le père ou la mère ne sera peut-être pas forcément d'accord, et ben on va se mettre d'accord ensemble avant. Alors soit en disant bah, écoute, moi je trouve que cette fois-ci ce serait bien quand même qu'on l'emmène, je sais que tu n'es pas complètement d'accord, mais ça fait trois fois qu'elle est invitée chez cette ouais. petite fille, voilà, et puis on en discute. Ça ne veut pas dire que je vais forcément dire non à chaque fois parce que mon conjoint ne veut pas, mais je pense qu'il y a, en fait, ça, j'ai envie de vous dire, c'est l'intuition des couples, hein, parce qu'il y a plein de sujets qui poseront zéro problème dans les couples, et d'autres, on ne sait pas pourquoi, ça va créer un conflit.
Est-ce que vous voulez dire par là que c'est aussi un langage qu'on apprend finalement à avoir en commun aussi ?
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je dis ouais. il y aura des loupés, c'est pour ça que je dis que souvent l'aîné a une place qui est pas toujours évidente, parce que
non.
parce que c'est lui ou c'est elle qui va prendre les loupés, justement, qui va voir que ouais. parce que maman a pris cette décision là, ça génère un conflit entre papa et maman, je me sens responsable du conflit. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans la tête d'un enfant, et donc le tout, c'est de désamorcer tout ça. Et si, en effet, ça génère un conflit, c'est de dire à l'enfant, écoute, désolé, pour moi, c'était évident que papa serait d'accord avec moi. Il s'avère qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave. T'as de la chance pour cette fois-ci, tu peux y aller chez ta copine, mais sache que la prochaine fois, ce sera peut-être pas aussi limpide.
Donc là, vous voulez dire que si ça pète, on ouais. imagine, ça pète devant l'enfant, on est vraiment... imaginons que ça crée vraiment une divergence telle qu'on ouais. s'engueule fort devant son enfant. Déjà, est-ce que c'est vraiment pas bien de le faire ? On se dit, ah non, là on est en train de s'énerver, stop, on arrête. Mais si, ben, parfois ben, c'est comme ça, c'est la vie aussi, on laisse sortir nos émotions et qu'on s'engueule franchement devant notre enfant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?
Alors là, pour le coup, j'ai une réponse assez directe, c'est que pour moi, on ne doit jamais s'engueuler fort devant nos enfants. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est en fait, on ne se rend pas compte, mais j'avais regardé une étude comme ça, de l'impact de l'énervement, du ton qui monte, de la dispute des parents sur tout l'ancrage neuronal de l'enfant dans son cerveau. C'est incroyable. Ouais. Il y a des études qui ont été faites. En fait, on met l'enfant dans un état de figement, de stress important, parce qu'il est trop jeune, en fait. Il ne comprend pas. Il a tout de suite peur des conséquences. Mmh. Le nombre d'enfants qui va se dire, mais ils vont se séparer. Vous voyez, c'est tout de suite la réaction. Oui. Alors que nous, en tant qu'adultes, on est capable de supporter le truc parce qu'on sait que ça va passer, que c'est pas grave. Que... Oui. Mais en fait, souvent, l'enfant est trop jeune. Et même s'il a 15 ans, il n'a pas à voir ses parents à se disputer comme ça. Qu'il perçoive le désaccord, ça, c'est normal et c'est même bon. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit être d'accord sur tout. Ce serait même dangereux qu'ils croient ça, les enfants. Mmh. En revanche, pour moi, une dispute, si on sent que ça commence à monter, qu'on n'est vraiment pas d'accord, on a vraiment le devoir de dire, attends, là, juste on se calme, on en reparlera plus tard. OK, on voit qu'on n'est pas d'accord. Quitte à dire à l'enfant, écoute, je t'avais dit oui, mais en fait, c'est peut-être pas sûr. Je vois bien que papa est pas d'accord, maman est pas d'accord. Voilà. Mais là, pour le coup, non, on peut pas se laisser déborder par nos émotions devant nos enfants.
D'accord. Est-ce que c'est possible, selon vous, d'avoir deux visions, mais différentes, voire limite opposées dans l'éducation, et de réussir à élever quand même sereinement ses enfants? Vous disiez tout à l'heure que les enfants se nourrissaient des différences de leurs parents.
Oui.
Mais si on est vraiment dans c'est vraiment l'opposé, est-ce que l'enfant peut se forger sa propre opinion dès tout petit?
Il ne va pas se forger sa propre opinion et ce ne sera pas l'objectif. Simplement, il va déjà voir que papa et maman sont différents. Mmh. Il va déjà comprendre qu'on ne va pas voir papa ou maman pour les mêmes choses. Et ça, c'est bon parce que dans nos différences, dans le couple, en fait, c'est génial pour l'enfant de ne pas avoir un modèle unique. Ça lui laisse beaucoup plus de liberté. Ça lui montre que lui aussi pourra se faire son propre modèle parce que déjà, il a grandi avec deux modèles différents. Donc, ça veut dire qu'il doit en exister plein d'autres. Donc, en fait, c'est déjà le début de la liberté. C'est ça qui est bon. Et c'est d'ailleurs ce qui est difficile. Hein. Dans une éducation monoparentale, c'est très compliqué parce que du coup, l'enfant n'a qu'un modèle. Et c'est beaucoup plus difficile, adolescent, d'être dans l'altérité, d'être dans le droit à l'altérité. Là où quand il a grandi dans une altérité de couple, où on peut ne pas être d'accord, on est différent, c'est bien plus facile pour l'adolescent d'aller chercher sa propre personnalité et c'est son propre point de vue. Donc voilà, donc à ce niveau-là, on peut les grandes différences d'éducation, on va avoir des grosses difficultés. Et d'ailleurs, c'est l'enjeu des couples mixtes avec vraiment des piliers intérieurs, quoi, et des cultures intérieures vraiment très différentes qui font que...
Oui, vous parlez d'un point de vue culturel quand vous parlez de couples mixtes qui viennent de...
Exactement, où là, il y a vraiment des choses qui vont être très différentes et qui font que... Alors, je parle aussi au point de vue de religion, au point de vue de la religion, par exemple, au point de vue de la vision de la famille où tout le monde vit sous le même toit avec les grands-parents, machin, ou la famille, au contraire, beaucoup plus européenne, où chacun vit dans son coin, voire chacun à l'autre bout du monde. Enfin, donc, tout ça peut générer beaucoup d'étincelles. Et c'est vrai que quand on vient de cultures trop différentes, pour le coup, il faut très vite, avant même d'avoir des enfants, aborder ces sujets-là. On a deux religions différentes, comment on va faire pour éduquer nos enfants? Il y a plein de sujets comme ça qui, là, viennent toucher des choses très importantes. Et je distingue toujours le point de l'éducation où, en fait, je peux faire un compromis, c'est pas si grave, même si je ferai pas toujours le compromis, mais de temps en temps, je peux le faire. Et ça va pas, c'est pas quelque chose où je me dis, je fais du mal à mon enfant. Et le point sur lequel je ne dérogerai pas. Et ça...
Oui, il y a des points sur lesquels on a l'impression qu'on ne pourra pas lâcher. C'est ça qui est terrible.
Exactement. Et ça va être, vous voyez, maintenant, on a beaucoup déjà l'histoire des écrans, l'histoire de la religion, c'est un point important. La façon dont on va gérer l'apprentissage de la sexualité, l'affectivité, tout ça. Les écoles, il y en a qui vont être, toujours école publique, tout ça, et d'autres, c'est inconcevable, vous voyez. Et bien ça, si moi, je suis sûre que je ne veux pas mettre mon enfant dans une école publique, ça va être très compliqué de lâcher là-dessus, vous voyez, si c'est une conviction vraiment...
Très profonde.
Oui, exactement.
Ouais. Mais alors, c'est quoi les solutions pour se faire aider quand ça tourne trop à la guerre et que ni l'un ni l'autre ne veut lâcher sur ses principes?
Alors là, il y a un moment donné, franchement, c'est ce qu'on appelle des conflits insolubles. Le concept du conflit insoluble, c'est de se dire, il ne faut plus que ce soit un conflit de couple, mais un conflit qu'on va gérer en couple.
Ouais.
Donc, ça peut être, par exemple, écoute, d'accord, on le met dans une école privée, mais moi, je veux absolument qu'il soit au judo, je sais pas, j'ai n'importe quoi, au dessin, à la musique, machin, mais dans des structures publiques. Comme ça, il va avoir des enfants qui sont que des enfants, qui grandissent dans des familles avec de l'argent. Bon, je dis n'importe quoi, mais voyez les clichés qu'on peut se faire. Et voilà, d'essayer de trouver, ok, je lâche là-dessus, mais en revanche, là-dessus, c'est hyper important.
Trouver un terrain d'entente et des compromis, quoi.
Oui, mais bon, ça va souvent générer des étincelles. Il va falloir accepter que ça prenne des mois et des mois de discussion. Et c'est pour ça que moi, je trouve toujours qu'un couple qui est en formation de couple, quoi, avant même d'avoir des enfants, il y a quand même des sujets qu'il faut absolument aborder parce que ça peut être parfois des vrais sujets qui nous espacent.
Mais on est d'accord que quand on est jeune amoureux et qu'on parle d'avoir un enfant, on se projette pas en fait dans les conflits et on se pose pas ce genre de questions. Bien sûr qu'il faudrait, ce que je disais, mais on se les pose pas ces questions concrètement.
Eh ben, une majorité le font pas, mais il y en a quand même qui le font. Et en fait, moi, c'est tout ce que je dis dans mes vidéos, sur mon blog, tout ça. Hein.
Vous parlez de sujets, je trouve, profonds, des convictions personnelles importantes. Si on prend un sujet plus léger, je disais justement, je parlais en introduction du maintien à table. Voilà, je trouve que c'est un sujet qui est épineux, moi, d'être à table. On a souvent, alors je ne veux pas que ce soit cliché non plus, mais on a souvent des mamans, j'entends, je vois, qui essayent de laisser leurs enfants un petit peu peut-être plus libres, d'essayer, par exemple, j'en parlais de la DME, on laisse patouiller l'enfant, il jette par terre, c'est pas grave, etc. Puis on a souvent des papas, encore une fois, je ne veux pas être dans le cliché, mais c'est souvent ce que j'entends, qui sont beaucoup à vouloir inculquer le bon maintien à table, etc. etc. Donc, on va se dire à la base, c'est pas un sujet dont j'aurais parlé avec mon conjoint, c'est pas un sujet très profond, très important, et pourtant ça crée de sacrés conflits, quoi. Tous les jours, les repas, c'est trois fois par jour.
Ouais, tout à fait.
Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve, voilà, on est coincé face à cette situation-là? Qu'est-ce que vous diriez à un couple?
Alors bon, là, donc là déjà, en effet, c'est beaucoup moins profond et donc on n'est pas dans le type de conflit insoluble. Hein. C'est pour ça que, en effet, avant, on était parti sur d'autres sujets. Hein. Voilà. Donc là. Typiquement, il va falloir se mettre à un niveau méta, qui est de dire, on veut vraiment tout faire pour que ce ne soit plus un sujet de conflit entre nous. Que le repas se passe bien, qu'est-ce qu'on met en œuvre ? Typiquement, ça peut être de dire, écoute, moi, ce que je vois, c'est que toi, tu supportes pas quand les enfants se mettent debout sur la chaise, par exemple. Moi, je trouve ça quand même vraiment intéressant et je trouve qu'ils sont petits, on peut pas leur demander les mains sur la table, machin. Écoute, à la limite, ce que je te dis, c'est qu'on est raccord tous les deux pour dire que déjà, les enfants ne se mettent pas debout sur la chaise. Je te demande juste si le reste, tu peux laisser au moins quelques temps jusqu'à ce que les enfants aient bien compris qu'on se mette pas debout sur la chaise. Je te soutiens là-dedans. Et toi, si tu peux juste faire le compromis de les laisser un peu patouiller, tout ça, voilà, que tu puisses me rejoindre un peu et que moi, je te soutienne aussi dans ce que tu demandes. Est-ce que ça s'attirait, par exemple? Voyez? En fait, l'idée, c'est de dire, j'entends ton besoin. On peut même aller beaucoup plus loin, c'est de dire, ok, quel est ton besoin le plus profond? En fait, quel est le plus dur pour toi à table? Il va dire, par exemple, moi, c'est les cris. Je supporte pas, en fait, j'en peux plus, je pète un câble dès qu'il crie. Et dans ces cas-là, quand il crie, je vais leur dire, tiens-toi bien, nanana. Donc, peut-être, vous, de vous dire, ok, écoute, j'essaye d'être un peu garante pour qu'il crie moins. Mais en revanche, est-ce que ça te dérange si on arrive à avoir un niveau sonore moins élevé, à ce qu'il patouille quand même dans l'assiette? Ça peut être aussi de dire, écoute, en fait, ils sont trop petits pour qu'on prenne les repas ensemble.
Oui.
Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse deux soirs dans la semaine où on dîne avec eux et le reste du temps, je les fais dîner avant ou tu les fais dîner avant. Et voilà, vous voyez, en fait, là, je vous donne des exemples, mais je pense que parfois, il faut savoir renoncer. Il y a des couples, hein, je pense à un couple en consultation, il y a un moment donné, les enfants avaient 3 et 5 ans. J'aurais dit, écoutez, je comprends que vous vouliez avoir des repas en famille et c'est génial dans l'éducation, mais franchement, attendez 5 ans, ils vont pas perdre beaucoup de temps. Dites-vous, on fait juste, allez, le week-end, on prend les repas en famille et la semaine, faites les dîners plus tôt. En plus, ils pourront se coucher plus tôt. Vous avez vos soirées. Et en fait, voilà.
On se met pas la barre.
Ouais, exactement.
Trop,
je pense qu'il faut savoir renoncer. Ouais. Parfois, on est en lutte contre un idéal, le repas en famille, et en fait, ça devient un pugilat. Donc, on est perdant sur tout, quoi.
Mais ouais, complètement.
Donc, voyez, voir de dire si vous avez une fratrie avec des âges différents, bah, écoute, on dîne avec les plus grands et les plus petits, on les fait dîner avant. Vous voyez. Mais je trouve, il faut être plus intelligent que le conflit. Et si on sent que vraiment c'est pas possible, eh ben on trouve tout à fait une autre solution et on renonce à quelque chose qu'on aurait aimé, mais qui au moins va nous permettre d'être plus serein.
Vous parliez avant donc de conflits qui sont parfois plus lourds, plus insolubles, comme vous disiez. Si malheureusement une séparation est inévitable, comment on gère l'éducation de son enfant? Une semaine sur deux, si justement ça n'a rien à voir chez papa de chez maman, comment nous on gère et comment ils gèrent surtout notre gosse?
Franchement, c'est des sujets...
Casse-tête.
Ouais, vraiment casse-tête. Parce que non, mais en fait, j'ai tellement de réponses à vous donner et aucune ne sera suffisante à elle-même parce que soit le couple est suffisamment intelligent pour être sorti des disputes et de dire, écoute, je sais que pour toi, c'est important qu'il n'y ait pas d'écran dans la semaine et qu'il y ait de l'écran que le week-end, par exemple. Voilà un exemple. Moi, je trouve qu'il pourrait avoir une demi-heure d'écran tous les soirs, mais OK, je respecte ce que tu as dit parce que sinon, ça va être compliqué pour toi. Donc, je le ferai, même si là, c'est dans l'idéal. Mais vous voyez bien que dans les séparations de couple, on a quelques couples qui arrivent à faire ça, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire, quoi. Ça veut dire qu'ils ont dépassé déjà beaucoup de conflits. Aujourd'hui, on est plutôt à « j'ai gardé la petite culotte, comme ça, je vais bien l'embêter à racheter l'autre petite culotte ». Donc, on est quand même dans des trucs, avant d'arriver à un niveau où on va se mettre d'accord sur l'éducation, c'est compliqué. Donc, là-dessus, j'ai envie de vous dire, dans l'idéal, évidemment, il faudrait se dire les points vraiment sur lesquels j'aimerais vraiment que tu me soutiennes, qu'on déroge pas, l'heure du coucher, le suivi des devoirs le soir, on se met d'accord. Ce serait l'idéal, évidemment. Maintenant, quand on est très différent et qu'une semaine, c'est avec papa, une semaine, c'est avec maman, franchement, ça va être compliqué. C'est très compliqué.
Pour l'enfant, je pense surtout, est-ce qu'il arrive à s'y retrouver?
Ah bah, l'enfant va s'adapter, hein. Donc, il va savoir qu'avec maman, c'est comme ça, avec papa, c'est comme ça. Mais beaucoup de personnes vont vous dire, je prends 3 jours avant de réussir à remettre mon éducation entre le moment où je récupère de chez sa mère et le moment où je l'ai avec moi, où je récupère de chez son père. Et voilà, il faut 3 jours pour que tout se remette en place et ça va être ça chaque semaine. Donc, d'un côté, moi, je leur dis toujours, si c'est hyper important pour vous, bah, il faut pas lâcher. En même temps, il faut pas qu'on mette l'enfant dans un conflit de loyauté. Et c'est toute la difficulté. Je vois beaucoup avec les portables, par exemple, de dire, écoute-moi, il n'y a pas d'écran la semaine. Si, en fait, c'est son seul moyen de communication avec son père la semaine où il est avec moi, bon, bah voilà, je vais pas, si son père lui reproche de pas avoir une nouvelle de la semaine, bah, je vais lui dire, OK, pour appeler ton père, tu as le droit à une demi-heure d'écran tous les soirs. Voilà. Mais évidemment, j'invite toujours les parents à avoir cette intelligence-là, de pas mettre l'enfant dans un conflit de loyauté. Mais bon, malheureusement, il va falloir compter sur l'adaptation de l'enfant. Hein.
On revient en arrière. On n'est pas dans ces conflits insolubles et dans la séparation. On est un couple, on a nos enfants. En conclusion, quel message vous pourriez leur donner à ces couples qui ont du mal à se mettre d'accord dans la vie de tous les jours? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se sentir écoutés chacun sur leur but éducatif pour que ce soit un peu plus simple?
Alors, le secret, c'est d'aller se connecter aux besoins profonds de l'autre. Et je rejoins à la toute première question que vous m'avez posée, qui est de dire que souvent, les besoins sont quand même reliés à des blessures, des manques que j'ai eus dans l'enfance. Donc, je peux dire à mon conjoint « Non, mais t'es ridicule à vouloir être toujours aussi ponctuel. Franchement, c'est ridicule. À une minute près, tu te mets dans un état pas possible. » Je peux dire ça. C'est hyper rationnel. Mais si je ne le rejoins pas sur son émotion, ça ne changera rien. C'est de dire « En fait, j'aimerais comprendre pourquoi c'est aussi important pour toi. » que les enfants soient prêts à une minute près. En fait, pour moi, c'est pas rationnel, mais si ça, je vois que ça te met dans un tel état...
Explique-le-moi.
Ouais, exactement. Est-ce que tu comprends toi-même? Est-ce qu'il y a une explication derrière? Et en fait, alors, soit vous avez un conjoint qui est disposé à cette réflexion-là et vous allez trouver quelque chose, et souvent, il y a une explication. En tout cas, moi, dans mon cabinet, souvent, je trouve les explications. Donc, je pense qu'on est capable de les trouver, ces explications. soit il n'y en a pas du tout. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est de dire, je vois que ça te met dans un tel état, il faut qu'on trouve une solution pour que tu n'aies plus à te mettre dans tel état. Mmh. Et l'erreur que font souvent les couples, c'est de dire, il faut que tu arrêtes de te mettre dans tel état. Eh oui. Et ça, je veux te changer. Et ça, ça ne marche pas. Mmh. En fait, il y a certains points, ça marchera, mais la majorité du temps, ça ne marche pas. C'est de dire, comment on fait pour que tu n'aies pas à te mettre dans un état comme ça? Si tu veux, quand ils ne sont pas prêts dans la minute, toi pars, et c'est moi qui m'occupe, je les emmènerai. Vous voyez, je ne sais pas, pareil, c'est pas toujours possible, mais... En fait, c'est vraiment être plus intelligent que ça et ne pas vouloir changer le conjoint en lui disant ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est de dire pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu réagis comme ça et comment on fait, parce que moi, ça, c'est pas important pour moi et je comprends pas pourquoi on met la pression comme ça aux enfants. Comment on fait pour trouver quelque chose qui fait qu'on n'a pas à se mettre dans des états comme ça?
Bon, maître mot, toujours communication.
Ouais, se relier aux besoins, ouais, hein. En fait, c'est vraiment ça. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, même nous, avant de nous mettre en colère, exprimons nos besoins. Mais c'est la base de la base, mais n'empêche que...
Mais au quotidien, c'est pas facile. Ouais.
Ah bah, bien sûr. Et puis au quotidien, on n'est même pas relié à nos besoins, donc on sait pas, en fait, pourquoi on s'énerve comme ça, mais voilà. Donc c'est tout le travail qu'on doit faire.
Ou le travail qu'on peut faire en se faisant aider, puisque c'est votre job aussi, quand on n'y arrive pas, de trouver une tierce personne pour se poser et se faire guider. C'est aussi la solution.
Oui, tout à fait.
Bah, écoutez, merci beaucoup Camille Rocher, c'était instructif et passionnant.
Bon, bah, merci à vous.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et aussi nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.